Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Noéla Luzitu Kabambi.
Un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda soumis le 2 mai dernier aux États-Unis d'Amérique. Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, annonce sur son compte X la voix reçue. Dans ce journal, vous suivrez la confirmation du ministre rwandais des Affaires étrangères sur ce projet à finaliser par la partie américaine avant sa signature par les présidents des deux pays à la mi-juin à la Maison-Blanche. 28 civils, dont 18 enfants, ont été remis à la société civile par les FRDC à Beni au Nord Kivu. Il s'agit d'ex-otages ainsi que d'enfants sortis des groupes armés. Et puis vous suivrez Jean Bamanissa comme invité vers la fin de ce journal. Le promoteur d'Expo Béton critique la gestion de la ville de Kinshasa. Dans une tribune, l'ancien gouverneur de province parle de la capitale de la RDC comme d'une ville sans politique de l'urbanisme ni de drainage. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Les États-Unis d'Amérique annoncent avoir reçu un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, l'a dit sur son compte X. Il écrit, je le cite, « Je salue le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda, une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe. » Massad Boulos dit compter sur l'engagement continu des deux pays en faveur de la paix. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères affirme que les deux pays, la RDC et le Rwanda, ont bel et bien soumis le 2 mai dernier leur proposition à la partie américaine qui va finaliser un projet d'accord de paix avant sa signature par les présidents de deux pays à la mi-juin à la Maison-Blanche en présence d'autres chefs d'État. Suivez Olivier Ndungiré, chef de la diplomatie rwandaise, dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
De mai, les deux parties ont soumis leur contribution aux États-Unis, à la partie américaine, qui va consolider, qui va mettre en place et finaliser un projet d'accord de paix entre les deux pays. Nous, les ministres des Affaires étrangères, nous allons nous rencontrer dans la troisième semaine de mai pour finaliser ce projet d'accord qui aura été discuté par des experts auparavant. Et puis, on espère qu'à la mi-juin, il y aura une signature de cet accord de paix à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump, et les deux présidents concernés, mais également les présidents des pays ou des communautés qui ont joué un rôle dans la médiation, des chefs d'État, puisqu'il y a l'émir du Qatar, il y a le président togolais, bien sûr, qui est le médiateur africain, et aussi le président kenyan qui représente l'EAC, et le président zimbabwéen qui représente la SADC. Donc, on espère que si tout va bien, donc on aura un accord de paix qui va nous permettre d'aboutir à une paix définitive dans la région.
Dans la ville de Beni, les FRDC ont remis hier 28 personnes, toutes des civils, à la société civile de la ville. Il s'agit des ex-otages ainsi que des enfants sortis des groupes armés. Les enfants au nombre des 18 ont été confiés à la section de protection de l'enfant de la MONUSCO qui les a ensuite remis à une organisation locale spécialisée dans la prise en charge et la réintégration des enfants. Le président de la société civile appelle la communauté à les accueillir sans les stigmatiser. D'autres détails avec Marc Marofim.
Les 18 enfants sont issus des forces et groupes armés locaux actifs dans la région après que leurs leaders ont été sensibilisés à la place de l'enfant dans la famille et à l'école. Les adultes, 7 hommes et 3 femmes, sont des civils qui s'étaient échappés des mains des rebelles des ADF dont les Mangose à la suite de la pression militaire menée conjointement par les FARDC et l'armée ougandaise UPDF. L'un d'eux témoigne.
J'ai été attrapé par les ADF là, à Mayangos et puis ramené dans la brousse. Nous avons vu les ADF, nous sommes passés dans plusieurs campements déjà abandonnés et nous avons compris que l'armée a fait beaucoup de choses. Ce que les gens n'ont pas encore compris.
Pepin Kavota, le président de la société civile qui les a reçus, a lancé cet appel à la communauté.
La communauté de la ville de Beni, du territoire de Beni, de Lubero, devrait, n'est-ce pas, recevoir sans pour autant les traumatiser. Parce qu'ils quittent là où il ne fallait pas qu'ils soient, mais grâce à Dieu, ils sont revenus en famille et que donc nous avons l'obligation, nous tous, communauté et famille, de les recevoir à vue de leur intégration dans la communauté.
Les enfants ont été remis par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO à une organisation partenaire de l'UNICEF pour une prise en charge transitoire, tandis que les adultes ont été directement resserrés dans la communauté via les cadres de base de leur quartier respectif. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Le réseau pour les droits de l'homme REDO, une organisation de défense des droits humains basée à Butembo, se dit inquiet face à la recrudescence de l'insécurité dans cette ville et ses environs. Selon son coordonnateur, 12 cas de meurtre, d'assassinat et de vindicte populaire ont été documentés par le REDO dans la ville au cours du mois d'avril 2025. Le REDO appelle les autorités à renforcer la sécurité de la population. Muindo Wasiviniwa est joint par Martial Papimukeba.
Pour le mois d'avril 2025, à ville de Butembo et Aviro, le REDO a documenté 12 cas, dont deux de la justice populaire. À part les 12 cas, 4 autres personnes sont mortes, deux par accident d'éboulement de terre et des affaires par noyade. Parmi les personnes assassinées, citons le cas de Mme Kavira Kiarima, en noirité, secrétaire générale adjointe d'une ASBL dénommée Kiandaira. Vu le taux élevé de la criminalité dans cette entité, le REDO appelle les services de sécurité de fournir plus d'efforts dans sa mission de protéger la population et ses biens, mais aussi aux instances judiciaires d'initier des enquêtes sérieuses en vue de juger les auteurs conformément à la législation congolaise.
Le commissariat provincial de la police du Congo central a reçu quelques véhicules. Ce matériel roulant, dont de la présidence de la République, a été remis par le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo au commissaire provincial de la police du Congo central. Le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou avant sa prise de fonction au commissariat provincial de Kinshasa. C'était hier lundi au cours de la dernière parade de la police. Nana Plurich Mambo.
Ce charroi automobile est composé de 5 minibus anti-émeutes de marque Force, communément appelé Kabasele. Cet apport vise à renforcer la capacité opérationnelle de la police. Dans son adresse, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Bilolo, a reconnu l'augmentation de la criminalité dans la province, précisément dans les villes de Matadi et Boma. Selon lui, elle est caractérisée par des cambriolages en série, des cas d'extorsion, des vols à main armée la nuit comme dans la journée, ainsi que le banditisme urbain. Pour les chefs de l'exécutif provincial, la police est appelée à redoubler d'efforts dans l'exécution de ses missions, notamment celle de la sécurisation de la population et de ses biens. Et d'ajouter, je le cite, « Elle doit être professionnelle et ne pas céder face aux criminels. » D'autant plus que les moyens politiques tels que l'augmentation des salaires, la dotation en tenue et charroi automobile sont déjà mis à sa disposition en vue d'améliorer des conditions socio-professionnelles. Fin de citation. Grace Nkwanga Bilolo conclut son allocution en condamnant la participation de certains éléments de la police dans des actes criminels. Il met en garde tous les policiers véreux et les appelle au bon sens. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
La nouvelle société civile congolaise dénonce la dégradation continue de la qualité du service rendu par la SNEL à la population, notamment en Kinshasa, dans la distribution du courant électrique. Au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa, le coordonnateur de cette structure citoyenne annonce l'ouverture d'un registre officiel des plaintes pour recenser les victimes de la mauvaise qualité de service de la SNEL, mais aussi il lance des consultations pour la constitution d'une action en justice collective contre la Société nationale d'électricité et les autorités complices, dit-il. Jonas Tchombela est dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Il est vrai que la SNEL est confrontée à des problèmes. La vétusté alarmante de ses infrastructures de production, transport et distribution, sans investissement suffisant pour le moderniser. Le refus d'une révision tarifaire imposée par des entreprises minières qui consomment plus de 8 millions de mégawattheures sur les 12 millions produits annuellement par la SNEL. Mais rien, alors rien, de tout cela ne peut justifier le calvaire imposé aux citoyens. Coupures prolongées, délestage hasardeux, obscurité chronique, flambée de l'insécurité, services techniques absents ou incompétents. Pendant ce temps, les abonnés continuent de payer chaque mois 1% de leurs factures au titre de l'éclairage public, dont l'hôtel de ville de Kinshasa est le bénéficiaire direct. Pourquoi continue-t-on de facturer les abonnés sans consommation réelle? Trop, c'est trop. L'électricité est un droit, pas un privilège.
Nos efforts pour avoir la réaction de la SNEL à ce sujet n'ont pas abouti. Au Kassai, le port d'Ilebo a repris du service avec l'arrivée du premier train la semaine dernière. Les activités dans ce lieu stratégique étaient à l'arrêt depuis plus d'une année suite aux déraillements répétés sur la voie ferrée et l'incendie qui avait endommagé les installations portuaires. Le tronçon entre Lukonga et Benaleka, remis en état, a tout de même permis au train de rouler, même si la problématique de la réhabilitation en général de la voie ferroviaire demeure encore, note la société civile locale. François Kadima nous en parle.
Le port d'Ilebo est un point stratégique en amont de la rivière Kassai. Situé au centre du pays et géré par la SNCC, le port d'Ilebo facilite la liaison ferroviaire pour le transport de marchandises vers plusieurs régions. Il relie Kinshasa à Lubumbashi par voie fluviale et ferroviaire, facilitant ainsi l'acheminement de marchandises vers les centres et le sud du pays. La voie ferrée avait été affectée par l'érosion au niveau de Benaleka, stoppant ainsi le trafic en dehors de l'incendie qui avait touché les installations de la SNCC à Ilebo. Après les travaux effectués, les activités ont repris à la satisfaction de tous. Mais les problèmes de la réhabilitation de la voie ferrée en état de délabrement demeurent, souligne Hubert Ngulandjoko de l'OCDH.
Ce port représente un caractère économique des grandes envergures au Kassai et au pays. L'OCDH déplore cependant l'état de délabrement avancé de la voie ferrée, tronçon Kananga-Ilebo. Demande à ce que les autorités puissent s'investir pour la réhabilitation de cette voie ferrée pour permettre un trafic sans une.
Signalons que le port d'Ilebo est parmi les principaux ports du pays comme celui de Kisangani, Kindu, Bandaka, Kinshasa et d'autres. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans le chapitre de la santé, la Fondation des Anges poursuit sa campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies gynécologiques ainsi que la prévention de l'infertilité du couple. Samedi, ce sont des centaines de femmes et des filles qui en ont bénéficié à la paroisse Saint-Léonard de Mboudi dans la commune de Mongafula. L'équipe du docteur Modia les a informés notamment sur le dépistage précoce pour réduire les risques liés au cancer du sein et du col de l'utérus, sans oublier les techniques d'assistance aux médicaments à la procréation pour la prise en charge de l'infertilité. Benjamin Moudoumbi était sur place. Suivez son reportage.
Docteur Antoine Modia, président administrateur de la Fondation des Anges, explique à l'assistance sur les facteurs des risques des cancers du sein et du col de l'utérus.
Pour parler des facteurs, en ce qui concerne les cancers du sein, la femme elle-même peut poser le diagnostic en faisant ce qu'on appelle l'autopalpation. Les cancers du col, c'est les cancers qui tuent le plus. C'est un cancer transmis par un virus qu'on appelle papillomavirus. Et ces papillomavirus, c'est transmis sexuellement. Donc, c'est une maladie sexuellement transmissible. Nous avons rencontrer des cancers du sein chez deux filles de 17 ans, 20 ans.
Les médecins abordent également les différents signes à ne pas négliger.
Le premier signe, c'est que vous puissiez avoir un nodule lorsque vous palpez les seins. Vous ayez l'impression que le mamelon est en train d'être rétracté. Si vous avez de grosses boules avec des ulcérations, donc il ne faut pas attendre ces signes-là. Les cancers du col s'expriment par des métrorragies, on dit des saignements en dehors des règles.
Parmi les nombreux témoignages recueillis, Maman Véronique salue du travail effectué sur place par cette fondation.
Moi, personnellement, ça m'a intéressé tout d'abord pour que je puisse venir faire le dépistage, surtout comme c'est gratuit.
Notez qu'avant Mboudi, une activité similaire a été menée à la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans la commune d'Elemba.
Et puis, la journée internationale des sages-femmes, c'était hier 5 mai. À cette occasion, Okello Kambaleva, qui est président du conseil provincial de l'ordre des sages-femmes au Nord Kivu, peint un tableau sombre de ce métier au regard des conditions difficiles dans lesquelles cette catégorie du personnel soignant rend son service à cause de l'insécurité, mais aussi de l'insuffisance du matériel dans différentes structures sanitaires. Okello Kambaleva qui plaide pour que le gouvernement se penche sur ce métier qui s'occupe de la vie humaine. Il est joint par Guylaine Kassassia.
Sont encore moins nombreux les sages-femmes que nous avons à province. Nous connaissons aussi un problème de la méconnaissance de la profession même par certaines autorités. Les sages-femmes qui ont été formées, à les amenant dans les structures sanitaires, on peut aller les affecter dans d'autres services pour lesquels ils n'ont pas de compétences, alors que leurs compétences c'est dans les services de maternité. Les rares sages-femmes qui sont affectées réellement dans leurs services de compétences, on les trouve bloquées par d'autres catégories de professionnels de santé en les laissa pas prendre de décision librement. Et finalement, on va trouver un résultat négatif. On peut aller trouver que réellement les sages-femmes sont affectées dans leur service, mais les matériels nécessaires dont ils auraient besoin pour sauver la vie ne sont pas disponibles. Cette situation-là, il est alourdi par la situation sécuritaire que nous connaissons. Pendant que les populations se déplacent, les structures sanitaires sont détruites, sont pillées, alors cela fait que les femmes qui ont survécu à cette situation n'accèdent pas aux soins de qualité. Parce que les sages-femmes ne savent pas quoi faire dans ce contexte-là.
Actualité internationale.
L'aéroport de Port-Soudan, ville qui abrite le siège provisoire du gouvernement soudanais, a interrompu son trafic ce mardi à la suite d'une frappe au drone. Notez aussi qu'une nouvelle explosion a été signalée hier soir dans le dépôt pétrolier de Port-Soudan en raison de la propagation d'un incendie déclenché plus tôt dans la journée par une attaque de drone des paramilitaires. Aucune victime n'a été signalée après cette frappe attribuée à la milice des FSR. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, des assassiné 13 millions d'habitants et plongé certaines régions dans la famine, provoquant la pire catastrophe humanitaire au monde, selon l'ONU.
L'invité.
La ville ne se construit pas dans le chaos ou le désordre dans lequel nous sommes plongés. Propos de Jean Bamanissa Saïdi, promoteur d'Expo Béton et ancien gouverneur de province. Il critique le désastre dans lequel vit ses jours Kinshasa, sans politique urbanistique ni de drainage, dit-il. Dans une tribune interrogative intitulée « Kinshasa, capitale des travaux éternels, on refait donc on avance », l'homme d'affaires et politique analyse les causes de l'effondrement des infrastructures routières dans la ville et propose quelques pistes de solutions. Jean Bamanissa s'entretient avec Jeff Ngoy.
Bonjour Jean Bamanissa.
Oui, bonjour Monsieur Jeff.
Pourquoi Kinshasa est devenue la capitale des travaux éternels que vous décriez dans votre tribune?
Kinshasa, effectivement, on se rend compte que on revient toujours sur le même travail. Et je dois commencer par le premier point. Pourquoi? Comme vous le dites, pourquoi? C'est parce que il n'y a pas eu une planification solide. En termes techniques, il aurait fallu d'abord que les grands axes soient dégagés. C'est vrai que plutôt en 2007-2008, certains grands axes comme l'avenue 24 novembre, boulevard, l'avenue Lumumba, jusqu'à l'aéroport ont été agrandis avec un système de canalisation qui n'a finalement pas été très efficace parce que n'ont pas été reliés à des égouts et à des canaux qui existent déjà ici en ville qui auraient pu déporter ces eaux-là vers des réservoirs ou vers le fleuve. Là, c'est une des premières causes au niveau technique. Mais aussi, la deuxième cause, c'est que les travaux se font sans, comme on l'a dit dans la tribune de Expo Béton Newsletter, sans qu'il y ait eu une étude sérieuse de conditions dans lesquelles les travaux devraient être exécutés. Et c'est juste un appel ou même pas une passation de marché qui est fait. Et nous décrions, beaucoup l'ont déjà dit, nous ne sommes pas les premiers à le dire, qu'il y a plutôt une recherche à la surfacturation. Et les matériaux, puisque ces contrats subissent une forte pression de la rétrocommission en général, et la preuve c'est que de moins en moins nous voyons des panneaux qui indiquent quels sont ces contrats qui ont été faits, et aussi qui indique les montants de ces travaux.
L'IGF parlait également de conflits d'intérêts lors des états généraux de la justice. Comment corriger ces failles lorsque les responsables des entreprises s'attribuent le marché entre les membres des familles?
Vous parlez de l'IGF qui est au courant, oui. L'IGF me l'a dit un jour que les contrats de travaux publics sont de 40% plus chers par rapport à ce qui se fait. Et donc il faut le corriger et je pense qu'il faut aussi interpeller les entreprises qui font les travaux pour dire à un moment, messieurs, refusez toute rétrocommission. Faites vos prix parce que sinon c'est vous qui allez, comme je l'ai entendu par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Boy, le dire deux, trois fois. Ces entreprises sont connues, il faut qu'on aille savoir pourquoi est-ce que la qualité des travaux ne suit pas.
Et que fait-on exactement de toutes les recommandations issues d'Expo Béton dont vous êtes promoteur?
Alors, les recommandations d'Expo Béton, nous les faisons. Nous portons haut la voix. C'est vrai que nous sommes une plateforme qui analyse les questions et qui les analyse aussi de façon ouverte, comme cette question d'infrastructure qui est plus que nécessaire. Et ça a été aussi de remettre dans la tête des dirigeants et des citoyens que les infrastructures sont nécessaires. Et donc, il faut de plus en plus taper sur la table pour dire les infrastructures doivent être mieux faites. Nous avons des recommandations qui sont suivies. Il faut l'entendre même de la bouche du chef de l'État qui dit qu'il suit. Il y a un nouveau ministère qui a été mis en place par rapport à ce que nous avons demandé, le ministère de la politique de la ville qui doit aider les entités territoriales décentralisées à s'organiser pour que nous puissions avoir des villes qui vivent avec un plan. Mais c'est une sensibilisation à tous les niveaux qu'il faut.
Pensez-vous que la simple sensibilisation suffit ou il y a une autre solution beaucoup plus durable à cette problématique d'infrastructure à Kinshasa?
Aujourd'hui, vous voyez tout le mauvais urbanisme où ça nous a emmené. Eh ben, il faut une sensibilisation plus forte pour qu'on comprenne que la ville ne se construit pas dans le désordre ni dans le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés et on continue à le faire encore plus mal. Une solution, par exemple, pour les infrastructures, je l'ai dit lors de mes dernières interventions, il nous faut beaucoup d'argent. Kinshasa a à peu près 3500 km de route à reconstruire et il faut le faire solidement avec des réseaux de drainage.
Je vous remercie.
Merci pour votre attention.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noéla Luzito Kabambi. La mise en onde est assurée par Depse Vita. Le tout coordonné par Jude Mister Bilanda.